Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je vous ai donc rappelé la dernière fois, au moins dans les grandes lignes, la problématique à laquelle je consacre mon cours depuis 4 ans, et qu'on pourrait peut-être résumer de la façon suivante. Société civile, ce qui se réfère au rôle des organismes à vocation philanthropique, guerre civile, cette fois-ci c'est les seigneurs de la guerre, et développement économique, et c'est là qu'intervient la Corporation des ingénieurs, à l'époque républicaine, et donc après 1912 et jusqu'en 1935, ou un peu après, c'est-à-dire jusqu'au début de la guerre sino-japonaise, qui commence pour de bon en 1937. Et avec cette précision importante, qui ne se trouve pas dans le titre du cours, mais que vous connaissez maintenant bien, que cette étude dont nous abordons le quatrième volet est centrée sur une région bien déterminée, même si je ne cesse de la mettre en contexte, cette région, dans l'histoire de la Chine, de cette époque, et donc que je vous parle souvent d'autre chose. Je le rappelle donc une dernière fois, cette région, c'est la province du Shaanxi, dans le nord-ouest, dont la capitale est Xi'an, et qui au début, du XXe siècle, la province du Shaanxi au début du XXe siècle n'est plus depuis longtemps une province centrale, ce qu'elle avait été dans des temps plus anciens, et à l'intérieur de cet espace, c'est plus précisément la zone centrale, c'est-à-dire la plaine du Guangdong, ou vallée de la Wei, tous ces noms je les ai déjà écrits, et plus particulièrement encore, donc c'est le site d'irrigation du Weibei au nord de Xi'an, dont nous avons vu que depuis l'Antiquité, c'était le cœur économique, ce site d'irrigation du Guangdong et donc du Shaanxi. Donc voilà une dernière fois, et comme on m'a demandé si je pouvais distribuer des cartes, si on m'en demande, je pourrais en effet préparer, disons, un jeu de cartes sur papier qui permettront de se repérer. Et je vous avais aussi précisé la semaine dernière qu'après avoir évoqué pendant 3 ans les désordres et les violences de toutes sortes qui ont affligé cette région dont je viens de parler, entre la révolution de 1911 et la fin de 1930, et après avoir analysé la situation, de crise économique permanente dans laquelle elle est restée plongée pendant toute cette période, et où elle se trouvait en fait depuis le milieu du 19e siècle, après avoir parlé de développement négatif en quelque sorte, je m'apprête cette année à traiter du second volet de l'histoire républicaine du Shaanxi ou du Guangdong au sens étroit, c'est-à-dire je m'apprête à parler de la phase de stabilisation politique, économique et sociale qui s'amorce à partir de la reprise en main de toute la région du nord-ouest en fait, de la Chine par le gouvernement nationaliste de Nankin, c'est-à-dire le régime du parti Kuomintang, de Chiang Kai-shek. Cette reprise en main étant symbolisée, comme je l'avais rappelé, par l'entrée des troupes nationalistes dans Xi'an en octobre 1930, au terme de plusieurs mois de guerre civile. En fait, il ne s'agit pas simplement de stabilisation, mais bien de développement, au plein sens du terme, c'est-à-dire non seulement une récupération et un redémarrage, suivi d'une croissance de la production, mais encore, et je dirais même surtout, une transformation structurelle de l'économie locale. Il a fallu un certain temps pour que tout cela devienne visible, certes, mais je ne pense pas moins qu'il est légitime de parler d'une révolution dans l'histoire moderne de cette région et d'une révolution que l'on peut résumer assez bien en parlant tout simplement de modernisation. Voilà donc le thème de cette année, et après le rappel général auquel j'ai procédé la semaine dernière, le moment est venu d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. J'avais eu le temps, il y a 8 jours, de mentionner 2 aspects de la question que je compte développer dans les semaines qui viennent, et qui n'épuiseront d'ailleurs pas cette question. Le premier aspect, c'est la façon dont les relations entre Chinois et étrangers ont été susceptibles d'influencer le processus de développement dans la Chine républicaine. Et cela, je commencerai à en parler en examinant plus spécialement le problème au niveau d'une institution qui a été un intervenant important dans ce processus et qui l'a été en particulier au Shaanxi, et c'est d'abord pour cela que je m'y intéresse, qui est donc la CIFRC. Alors là, comme on me l'avait demandé, j'écris également une fois pour toutes aussi bien l'acronyme, donc j'utiliserai toujours, parce que c'est plus rapide, qui est donc les initiales de la China International famine, Relief Commission, donc la Commission internationale de secours contre la famine en Chine, dont le nom chinois est, je le mets aussi, parce qu'il est il est un petit peu différent en fait dans son sens, donc Zhongguo Huayang. Alors attendez, le nom complet c'est Huayang Chen, Yijun. Ouais. C'est un nom plus explicite, disons. Puisque, pardon, ouais. Puisqu'il s'agit d'une, le mot est important, d'une association, qu'est-ce que j'écris, générale, donc fédérative, et c'est ça le point important, pour les secours, pour secourir donc les victimes des désastres. Et l'important, c'est aussi le terme d'abord Huayang, qui signifie non pas international, mais sino-étranger. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et Yijun, c'est donc ce terme dont j'avais beaucoup, que j'avais déjà commenté, qui signifie des secours philanthropiques, tout simplement, ou charitables. Donc, voilà les noms, les différents noms de la CIFRC, une fois pour toutes. Et d'ailleurs, en chinois, on l'appelle en général d'une façon un peu raccourcie, en parlant simplement de la Huayang Yijunhui. C'est comme ça qu'elle est appelée partout. Donc j'en étais aux questions des relations entre Chinois et étrangers, enfin j'annonçais ce thème. Et pour formuler la question autrement, je dirais peut-être que s'il est constant que l'assistance internationale a joué un rôle important et parfois crucial, et sous les formes les plus diverses, dans l'émergence du secteur moderne de l'économie chinoise, et cela depuis la fin du 19e siècle, depuis disons après 1860, il reste à examiner de près. D'une part, comment elle a été reçue, cette aide internationale, d'autre part, comment elle a opéré, et puis surtout, dans le cas présent, comment les experts, les conseillers, les collaborateurs européens ou américains, ou même occasionnellement japonais, qui intervenaient sur le terrain, au contact direct de leurs interlocuteurs chinois, interagissaient avec ces derniers, ce qu'ils représentaient à leurs yeux, ce qui les liait ou au contraire ce qui les opposait. C'est donc sur cela que je vais revenir à partir d'aujourd'hui. Mais au préalable, je vous rappelle quand même le second aspect que j'avais annoncé et que j'aborderai après, et qui est d'une nature tout à fait différente. Ce second aspect, c'est l'impact du modèle de développement du Weibei. Donc le Weibei, encore une fois, c'est le nom du site d'irrigation dont j'ai parlé. Dont j'ai souvent beaucoup parlé. Donc, l'impact du modèle de développement du Weibei sur le terrain qui nous concerne. Et cela me conduira à examiner les aspects plus proprement techniques et économiques du processus de développement dans cette région, dans la région du Guangzhou, après 1930. C'est-à-dire que je l'examinerai bien au-delà de ce périmètre d'irrigation dont on peut dire malgré tout que, d'une certaine manière, tout est parti de là. Car la réhabilitation du site hydraulique du Weibei, dont j'ai rappelé la semaine dernière qu'elle a été entreprise pratiquement dans les semaines qui ont suivi l'installation de l'administration nationaliste à Xi'an, cette réhabilitation a eu un impact considérable, et pas seulement dans la zone directement concernée, c'est-à-dire à l'intérieur du périmètre d'irrigation alimenté par le nouveau canal. Et nous avons vu qu'il s'agit d'une zone qui ne représente, après tout, qu'une très petite partie de la plaine du Guangzhou. Donc l'impact s'est fait sentir bien au-delà. Il s'est fait sentir dans toute la région, à la fois par l'effet d'entraînement que la croissance à l'intérieur de la zone irriguée, qui était forte, a exercé sur l'économie du Guangzhou, et aussi parce que cette opération spectaculaire de modernisation au niveau des infrastructures a servi ensuite de modèle de développement. Et elle a servi de modèle de développement à plusieurs points de vue. D'abord, le modèle même de l'infrastructure, ou plutôt le modèle de l'infrastructure elle-même, a été repris ailleurs. En fin de parcours, c'est-à-dire en fait au début des années 1950, peu après, oui c'est ça, dans les premières années de la République populaire, le Shanxi, le centre du Shanxi, la région du Guangzhou, n'avait pas moins de 8 canaux fonctionnant suivant le principe qui avait été inauguré avec le canal Jinghui, donc celui dont je parle principalement. C'est-à-dire des canaux qui captaient des cours d'eau en hauteur et irriguaient les plaines en contrebas par des systèmes de distribution. Ce sont ces huit canaux, ce qu'on appelle là-bas les huit canaux de bienfaisance, les parhuetsu, et où on. Donc les huit canaux. De bienfaisance, avec ce mot qui signifie bienfaisance, qui est employé par exemple pour la générosité, pour la bienfaisance impériale sous l'Empire, donc c'est la bienfaisance de chaque rivière qui enrichit donc la région irriguée. Et c'est ainsi que vous avez le Tinghuetsu. Et tous les sept autres canaux portent également un nom construit sur le même modèle, c'est-à-dire vous avez le nom de la rivière, par exemple la Lo, la Wei, etc., suivi du mot Hui, la bienfaisance, et puis Chu, le canal. Donc, cette vision, ce sont ces huit canaux de bienfaisance, et cette vision des huit canaux de bienfaisance, je crois que c'est la moins mauvaise traduction, avait été formulée en fait assez tôt par l'ingénieur Li Jie, et avant sa mort, qui est survenue en 1938, Li Jie avait pu mener à bien la réalisation du premier d'entre ces canaux, et il avait pu au moins dessiner des projets pour la suite. Et donc, dans les années suivantes, ils ont été peu à peu réalisés. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, l'autre chose qui est tout aussi importante, c'est que la mise en service du système d'irrigation alimenté par le canal Tinghui a été l'occasion de moderniser de façon assez drastique la gestion de l'irrigation à l'échelon de la province. Qu'il s'agisse des structures d'administration, de supervision et de surveillance du système d'irrigation, ou qu'il s'agisse du corpus de réglementation que ces nouveaux organismes devaient donc faire appliquer, ou qu'il s'agisse encore des principes mêmes d'utilisation de l'eau, les quantités d'eau, les périodes, la nature des cultures irriguées, et ainsi de suite. Tout cela donc dans le but de maximiser le rendement et la régularité de l'irrigation. En d'autres termes, pour la première fois, l'agriculture irriguée a été envisagée dans cette région d'une façon qui se voulait et qui se disait explicitement scientifique. Et là encore, on peut bien parler d'une véritable mutation. Une mutation moins spectaculaire, sans doute, que l'édification de vastes infrastructures, est moins facile à repérer, mais dont les effets se sont étendus à une bonne partie de l'agriculture de toute cette région. On pourrait presque parler d'une première révolution qui est une sorte de prélude à la révolution verte qui a pris place dans pratiquement toute la Chine plus tard, dans les années 1960, où là aussi les méthodes plus scientifiques ont été appliquées à grande échelle. Mais donc, encore une fois, il y a un antécédent extrêmement important dans les années 30. Et de tout cela, donc, je parlerai plus tard, en analysant pour vous des documents peu connus ou même totalement inconnus. Mais avant de me lancer dans cette étude de modernisation, en quelque sorte, qui me permettra aussi d'examiner de près les rôles respectifs des administrateurs et des technocrates lorsque ceux-ci arrivent à coopérer dans les mêmes entreprises, comme il avait été impossible de le faire avant 1930, avant cela, donc, je voudrais m'attarder pendant quelque temps sur la coopération, non pas entre administrateurs et technocrates, mais entre Chinois et étrangers. C'est donc la CIFRC, je le disais à l'instant, qui va principalement me servir de cadre pour examiner cette question. Et il y a de bonnes raisons à cela. Il y a de bonnes raisons tout d'abord parce que la CIFRC a joué un rôle extrêmement important au Shaanxi, dans notre province, qui reste notre terrain, jusqu'au milieu des années 1930. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exposer, la contribution de la CIFRC à la reconstruction du système hydraulique du Weibei a été immense. C'est elle qui a relancé le projet dès septembre 1930, en s'appuyant sur sa notoriété et sur son accès à des moyens financiers extérieurs. Ce sont ses ingénieurs ensuite qui en ont été les concepteurs de ce système, même si des versions antérieures du projet avaient été conçues par Li Jie dans les années 1920. Ces ingénieurs, donc les ingénieurs de la CIFRC, en ont été aussi les exécutants du projet pour la partie la plus difficile et la plus technique du chantier, c'est-à-dire le dispositif de captation de l'eau en amont du canal, de captation donc de l'eau de la rivière Ting, dispositif qui était situé dans une gorge difficile d'accès, j'en avais même montré des vues, je crois, il y a 2 ou 3 ans, qui incluait la construction d'un barrage, le percement d'un tunnel, etc. Et de même, la CIFRC était en charge de la partie la plus difficile à creuser du canal, c'était la partie rocheuse. Et enfin, dernière chose, la CIFRC a assuré, en fin de compte, l'essentiel du financement de ce projet, et elle l'a fait à une hauteur qui, en fin de compte, s'est avérée beaucoup plus importante que ce qu'on avait prévu au départ. Il n'est pas, soit dit en passant, inutile de souligner tout cela, car la contribution de la CIFRC, dont c'était le projet phare en matière de travaux publics au début des années 30, et un projet auquel elle assurait une très grande publicité dans tout le pays, cette contribution, donc, que les Chinois de l'époque étaient les premiers à reconnaître et à célébrer, cette contribution est aujourd'hui minimisée, voire purement et simplement passée sous silence dans la littérature consacrée en Chine populaire à la construction du canal et en général à la reconstruction économique au Guangzhou, au Shanxi. Et s'il en est ainsi, je suppose que c'est certainement même pour des raisons de fierté nationale ou de préjugés anti-occidental, voire de sentiments anti-impérialistes, et on peut remarquer à cet égard que la CIFRC avait été dénoncée dès le début des années 1930 par le Parti communiste chinois comme étant un agent de l'impérialisme américain. Je dirais même que ce ne peut être que pour de telles raisons qu'on passe sous silence cette contribution en Chine aujourd'hui, avec de rares exceptions. Ça ne peut être que pour de telles raisons, car les sources, en fait, ont toujours été là, à commencer par les écrits de Li Yizhe lui-même, qui sont parfaitement explicites donc, sur la contribution de la CIFRC et d'autres documents encore de l'époque, et donc ces sources étant là, il suffisait de s'en servir. En fait, seuls certains travaux récents en Chine, consacrés spécifiquement justement à l'histoire de la CIFRC, rendent compte de façon à peu près exacte, et encore pas toujours, de la façon dont les choses se sont passées, c'est-à-dire de qui a fait quoi. La CIFRC, qui s'était intéressée au Shanxi pratiquement depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis 1922, et qui avait à Xi'an un comité provincial composé de personnalités locales en vue, y constituait donc plus que jamais, après 1930, au début des années 1930, y constituait plus que jamais une présence importante. Son efficacité démontrée et les moyens très importants dont elle disposait en faisaient un partenaire particulièrement recherché par les autorités nationalistes dans leur effort pour tirer la province de son sous-développement. On peut d'ailleurs noter qu'un autre de ces grands projets, des grands projets de la CIFRC, avait également fait l'objet d'un contrat avec le gouvernement provincial du Shanxi, à peu près à la même époque. C'est-à-dire au début des années 30. Il s'agissait en l'occurrence de la construction d'une route carrossable entre Xi'an et Lanzhou, c'est-à-dire la capitale du Gansu, qui se trouve à 700 km plus à l'ouest. Lanzhou, et c'est pourquoi la route s'appelait, alors en transcription actuelle, ça s'écrirait comme ça, mais à l'époque on l'appelait la route Xi'an. Donc les deux premiers caractères de Xi'an et de Lanzhou. Donc cette route Xi'an était un des autres projets phares de la CIFRC et c'était en effet un projet assez remarquable car il présentait des difficultés techniques très grandes en raison du relief. Que ce soit donc par l'intermédiaire de son comité provincial ou que ce soit directement lorsque ses dirigeants se rendaient sur place, la CIFRC était en contact constant avec les plus hautes autorités de Xi'an et sur le terrain, ses ingénieurs, ses cadres et ses administrateurs fréquentaient quotidiennement, en tout cas pendant la durée des chantiers, fréquentaient quotidiennement les habitants du Shanxi, engagés sur les chantiers, en général à l'occasion des famines, ainsi que les fournisseurs, les intermédiaires chargés de recruter la main-d'œuvre, qui étaient des personnages très importants, et que les autorités locales. Et tout cela pose donc, comme on le voit, la question des relations entre étrangers et Chinois dans un tel cadre, et dans de telles circonstances. Ou plus exactement, ces coopérations et ces contacts conduisent à se demander comment les étrangers, même ceux qui travaillaient dans le cadre d'entreprises de nature philanthropique, donc en principe pour la Chine, comment ils étaient considérés par leurs interlocuteurs chinois, comment leur rôle et leur attitude étaient perçus ou éventuellement ressentis, et à l'inverse, comment les étrangers travaillant dans le cadre de l'assistance philanthropique considéraient leurs interlocuteurs chinois. Et par conséquent, cela conduit à se demander quelle était la nature exacte de leur relation, de leur rapport interpersonnel. Vous me direz que c'est une question plus culturelle ou d'un certain point de vue plus politique que strictement économique, et c'est certain. Mais c'est aussi une question à laquelle j'ai été confronté ou sensibilisé, pourrait-on dire, en consultant des sources, aussi bien des sources chinoises que des sources occidentales, qui traitent précisément de problèmes de développement, d'expertise technique et d'aide internationale. Et ce que j'ai trouvé dans ces sources n'a pu que me convaincre que, dans de tels domaines, les aspects culturels et politiques ne peuvent en aucun cas être ignorés. Et bien au contraire, je crois qu'ils sont essentiels. Il va de soi que ces remarques que je viens de faire ne valent pas seulement pour la CIFRC, qui n'était certainement pas le seul organisme de coopération internationale actif en Chine à cette époque. Il faut quand même le rappeler. Et je vous cite simplement quelques autres exemples. Il y avait d'abord la Commission internationale de secours contre la famine de Shanghai, qui était d'une certaine manière la sœur ennemie de la CIFRC. Et cette commission de Shanghai disposait de gros moyens, et après avoir adhéré au début à cette sorte de fédération que constituait la CIFRC, elle s'était rapidement impatientée, ses responsables à Shanghai s'étaient rapidement impatientés du rapport de subordination que cette adhésion impliquait. Et ils avaient donc repris leur indépendance dès 1925. Donc il y avait ce comité de Shanghai, il y avait aussi la Croix-Rouge américaine qui a été très active en Chine pendant toute cette période et dont nous avions vu l'année dernière d'ailleurs qu'elle avait critiqué de façon assez radicale les méthodes et la stratégie de la CIFRC. Et puis il y avait aussi la Société des Nations qui à partir du début des années 30, sur la demande du gouvernement nationaliste, a envoyé en Chine de nombreux experts, y compris des ingénieurs qui eux aussi ont été fort critiques des réalisations de la CIFRC. Mais l'importance même de cette dernière, le poids qu'elle avait en Chine, je vais y revenir de suite, et aussi la qualité des sources dont on dispose maintenant pour en parler, et là aussi j'y reviendrai, tout cela fait que la CIFRC, autant que je puisse en juger, offre le meilleur matériau qui soit pour une étude de cas. Quoi qu'il en soit, et avant d'examiner les questions que je viens d'évoquer sur le terrain, autrement dit, avant de m'interroger sur les relations entre les représentants de la CIFRC et leurs interlocuteurs chinois dans le cadre des projets qu'elle poursuivait au Shaanxi, que ces interlocuteurs soient les autorités de la province, les ingénieurs et les techniciens chinois, ou que ce soit ceux qu'on continuait, en tout cas dans les milieux anglophones, d'appeler les coolies, autrement dit les travailleurs locaux. Avant cela, donc, il est important de souligner que, au-delà de son rôle au Shaanxi, la CIFRC a été un acteur de tout premier plan dans les efforts pour sortir la Chine du sous-développement et du cycle des désastres naturels, pour l'équiper en infrastructures modernes de transport ou de régulation hydraulique, et pour aider la société rurale à s'organiser elle-même et à sortir de la misère. Et là, il s'agit du programme de coopérative rurale de la CIFRC, sur lequel je redirai un mot rapide le moment venu. On peut dire sans hésiter, je crois, que s'il est un but que la CIFRC a poursuivi à travers toutes ses entreprises, c'était bien d'engager la Chine, et ceci veut dire d'abord la Chine rurale, d'engager la Chine dans ce que j'ai appelé le cycle vertueux du développement. Elle a cherché à le faire, et dans une certaine mesure elle y a réussi, elle a cherché à le faire dans ses domaines spécifiques d'intervention, mais au-delà de ça, je crois qu'on peut ajouter qu'il est hors de doute que pour la plupart de ses dirigeants et de ses cadres chinois, et encore plus peut-être anglo-américains, la visée ultime, par-delà le sauvetage et la modernisation de l'économie, la visée ultime, c'était de contribuer à l'édification d'une société moderne et démocratique en Chine. La CIFRC, comme je l'avais indiqué en son temps, avait été fondée à la fin de 1921 avec l'idée de créer une structure permanente pour lutter contre la famine en Chine en s'attaquant aussi bien à ses causes qu'à ses effets. Ceci par opposition aux comités de toutes sortes qui se constituaient ça et là dans les provinces pour faire face à l'urgence à chaque fois qu'une catastrophe naturelle survenait. Une sécheresse ou une inondation à grande échelle, faisant des centaines de milliers ou même des millions de victimes, réduisant les réserves à néant, détruisant les patrimoines, jetant les réfugiés sur les routes et faisant régner la famine dans de vastes zones. Et c'est ainsi, et c'était donc quand des choses comme ça commençaient à se passer, que des associations provinciales se constituaient en urgence. Et c'est ainsi que se formèrent dans une dizaine de provinces, pendant une sécheresse catastrophique dans les cinq provinces, les cinq grandes provinces de Chine du Nord, en 1920 et 1921. C'est ainsi que se formèrent des associations sino-étrangères de lutte contre la famine, qui portaient toutes plus ou moins le même nom, c'est-à-dire l'appellation que nous avons ici, Huayang Yizhenhui, Société sino-étrangère de lutte contre la famine, avec chaque fois le nom de la province. Donc il y avait celle du Shanxi, celle du Henan, etc. À la suite de plusieurs tentatives de coordination de tous ces organismes provinciaux, un comité international contre la famine s'était mis en place à Pékin, qui était appelé le Beijing Guoji Tongyi Jiuzai Zhonghui, c'est-à-dire l'association générale de secours et unifiée de secours international et de Pékin. Enfin, c'est un peu difficile à traduire élégamment. Une association, donc, qu'on appelle en général le comité de Pékin, un comité qui s'efforçait de coordonner les efforts de ces différentes associations et qui se chargeait de canaliser et de répartir aussi bien l'aide étrangère que celle provenant du gouvernement lui-même. Cette dernière provenant en fait d'une surtaxe qui avait été édictée et acceptée par les pays étrangers, une surtaxe sur les droits de douane. L'idée de mettre en place un organisme cette fois-ci permanent et unifié, capable d'œuvrer pour prévenir le retour de la famine, cette idée est discutée dès le début de 1921, dans ce cadre, donc dans cette association de Pékin, ce comité de Pékin. Et cette idée donc se réalise dès l'automne de cette même année, 1921, une fois la situation revenue à la normale, et après que le comité international de Pékin a réuni pour en discuter les représentants de six associations provinciales. Apparemment, il y en avait en activité neuf à ce moment-là. Et donc la CIFRC, fruit de ces discussions, est officiellement créée le 16 novembre 1921 lors d'une assemblée générale qui se tenait à Shanghai, mais le siège de la commission restait à Pékin. Ce qu'il faut dire, ce qu'on peut dire d'important, c'est que la CIFRC était une organisation centralisée, dotée d'un comité exécutif, d'un secrétariat général et de bureaux spécialisés, dépendant de cette direction. Et cette direction, dont je redirai un mot, et dont un des principes fondateurs était la parité numérique entre responsables chinois et responsables étrangers, cette direction donc exerçait un contrôle étroit sur les comités provinciaux de la CIFRC. Il y en avait sept au moment de la fondation de la commission en 1922, mais en 1935, on n'en compte pas moins de 15. Pour rester accrédité auprès de l'organisation mère, ces comités provinciaux devaient se conformer strictement aux règles de fonctionnement qu'elle édictait, lesquelles règles incluaient, là encore, la parité entre responsables chinois et non-chinois. Et en outre, l'organisation mère, c'est-à-dire la direction centrale de la CIFRC, contrôlait les fonds des organisations des comités provinciaux et récupérait la moitié de leurs recettes, c'est-à-dire des donations qui leur étaient faites pour les redistribuer en fonction des actions en cours. En tout cas, tout de suite après sa création, en remplacement du comité unifié de Pékin, dont elle a d'ailleurs hérité des principaux dirigeants, et qui lui a aussi laissé le solde inutilisé de ses fonds de secours, une somme qui se montait quand même à 1 200 000 dollars chinois, ou yuan, après cela, donc, la CIFRC est devenue, ou dès cette fondation, la CIFRC, ou tout de suite après, est devenue la plus grosse organisation non gouvernementale du pays. En fait, jusqu'en 1937, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin de son histoire, du moins dans sa forme originale, et avant que l'essentiel de ses fonctions ne soit reprise par le gouvernement nationaliste ou par la Croix-Rouge chinoise, donc jusqu'en 1937, la CIFRC était l'organisation à but non lucratif, ou philanthropique donc, qui disposait des ressources les plus importantes en Chine. Par exemple, à en croire un bilan dressé en 1930, pendant la décennie précédente, c'est-à-dire depuis sa fondation, la CIFRC avait dispensé en fonds de secours un total de presque 33 millions de dollars chinois, dont un peu plus de, c'est intéressant, la proportion est intéressante, un peu plus de 31% était d'origine gouvernementale, presque 39% provenait de contributions chinoises et un peu moins de 30% provenait de contributions étrangères. Et dans son rapport pour l'année 1936, la CIFRC affirme avoir reçu depuis sa fondation pas moins de 50 millions de yuan en contribution. Et on peut ajouter que ces revenus étaient non seulement importants, et pour vous donner quand même un ordre de grandeur, je rappellerai que l'opération du Weibei, qui a été un des plus gros chantiers de la CIFRC, lui avait coûté à peu près un million de dollars chinois, de yuan. Donc ces revenus étaient non seulement importants, mais ils étaient également relativement stables. Car la CIFRC encourageait ses pourvoyeurs de fonds à lui verser des contributions annuelles plutôt que d'avoir à lancer des appels à contributions désespérées lorsque la situation devenait réellement grave, comme ça s'était toujours passé dans l'histoire de la philanthropie chinoise depuis cette histoire que j'ai retracée l'année dernière. Mais il n'y avait pas que sa santé financière, qu'il ne s'agit d'ailleurs pas non plus d'exagérer, il y avait parfois des problèmes d'argent. La réputation de la CIFRC reposait aussi sur la qualité et la rigueur de sa gestion, sur son expérience du terrain et bien sûr sur son accès privilégié aux ressources autant politiques que financières de l'étranger, sur son carnet d'adresses, pourrait-on dire. Jusqu'au début des années 1930, en fait, c'est-à-dire avant que le gouvernement nationaliste ne tente sérieusement de reprendre les choses en main, jusqu'au début des années 30, les autorités se reposaient presque entièrement sur la CIFRC pour les grands travaux d'infrastructure lancés à la faveur, si je puis dire, des famines, donc en recourant à la méthode de secours en échange de travail, c'est-à-dire cette Gongzhen, ou Igongda, également une expression que j'ai souvent citée, qui remonte à l'époque impériale, donc des secours en échange de travail, qu'on appelait en abrégé simplement Gongzhen, des secours travail. Les autorités se reposaient presque entièrement sur la CIFRC pour ces programmes de grands travaux d'infrastructure. Et la commission était en effet la seule à posséder le savoir-faire et les capacités d'organisation nécessaires à quoi s'ajoutait sa compétence technique, c'est-à-dire son bureau d'ingénierie, dont j'aurai donc à reparler, et même pas mal. Certes, la CIFRC pouvait s'appuyer pour tout cela sur l'expérience des entreprises de coopération internationale pour combattre la famine et pour combattre les désastres naturels qui avaient été conduites depuis le début du XXe siècle et dont elle était en fait l'héritière directe. Mais ce qui faisait la différence, c'est que dès sa fondation, la CIFRC avait travaillé à édifier un ensemble de procédures systématisées et bien rodées et de plus révisables pour s'adapter aux circonstances. Et d'abord, ce qui était une première dans le monde de la philanthropie en Chine, ces responsables s'étaient employés à mettre en place des structures de gestion rationnelles, hiérarchisées et s'appuyant sur des statuts et sur un règlement intérieur élaboré sur le modèle des organisations similaires à l'étranger, qui suivait lui-même le modèle des organismes publics. C'est-à-dire que le personnel était géré de façon rigoureuse, que les résultats étaient évalués, qu'il y avait une stratégie à long terme qui était élaborée pour remplir les objectifs de la commission. Ces statuts avaient d'ailleurs dû être révisés à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution des circonstances et des missions de la CIFRC, des changements dans la situation politique du pays, et là le principal de ces changements, ça a été bien sûr l'arrivée au pouvoir du Kuomintang en 1928 et la consolidation du régime nationaliste après 1930 qui ont conduit la CIFRC déjà à redéfinir ses alliances politiques, mais aussi à redéfinir progressivement ses priorités. Et puis, autre cause de révision des statuts, certains problèmes de fonctionnement qui s'étaient fait jour en cours de route. Il me semble donc important, arrivé à ce point, de dire un mot de l'organisation interne de la CIFRC, car c'est là le cadre dans lequel doivent être envisagés les problèmes dont je parlerai ensuite. Pour le décrire sommairement, la légitimité des mesures prises par la Commission reposait sur les orientations votées, discutées et votées par l'Assemblée générale de ses membres laquelle Assemblée générale réunissait en théorie une quarantaine de personnalités, incluant notamment les délégués des comités provinciaux et puis bien sûr les cadres de la commission, de son appareil central. Mais dans la mesure où cette assemblée ne se réunissait qu'une fois par an, et encore assez souvent avec de très grandes difficultés en raison de la situation trop souvent chaotique qui régnait dans le pays, en raison des coups que ça entraînait aussi, elle ne s'est plus réunie qu'une fois tous les deux ans à partir du 1931. Donc, comme cette assemblée ne se réunissait que rarement, la réalité du pouvoir était exercée par la direction centrale à Pékin. Cette direction centrale comportait un comité exécutif composé de 11 membres élus par l'Assemblée générale, dont faisaient partie de droit les hauts responsables de la commission, ceux qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le bureau du comité exécutif, à savoir le président, le vice-président, les deux trésoriers et le secrétaire général. En principe, ces instances dirigeantes dont je viens de parler obéissaient au principe de la parité entre Chinois et étrangers, ou la parité numérique, ou la quasi-parité, faudrait-il plutôt dire, puisque le comité exécutif était composé de 11 personnes. Il y a donc eu 5 Chinois et 6 Occidentaux jusqu'en 1928, et après 1928, c'est l'inverse qui a prévalu. Le changement s'expliquant en fait par le fait que le poste de secrétaire général de la CIFRC, dont le titulaire appartenait de droit au comité, a été occupé par des Américains jusqu'en 1928 et par un Chinois après cette date. En vertu d'une règle non écrite, le président de la CIFRC était toujours un Chinois, le vice-président était toujours un Occidental. Et il y avait un trésorier chinois et un trésorier occidental. Quant à l'origine nationale du secrétaire général, elle n'était pas spécifiée, il n'y avait pas de tradition, mais comme nous venons de le voir, il s'est agi d'un Chinois à partir de 1928. Et du reste, le personnage en question, sur lequel je vais bientôt revenir, assumait pour une large part la réalité de ses fonctions dès les origines de la CIFRC en qualité de secrétaire général adjoint. Ce comité exécutif se réunissait en principe une fois par mois, et même deux fois par mois à partir de 1929. C'était, disons, l'instance décisionnelle de la CIFRC. C'est là qu'étaient discutés les problèmes auxquels elle était confrontée, c'est là qu'étaient arrêtés ses choix stratégiques, et toutes les décisions étaient soumises au vote, chaque membre disposant d'une voix et d'une seule. Mais les membres du bureau, c'est-à-dire les dirigeants, principaux dirigeants de la commission, avaient inévitablement plus de poids au sein de ce comité exécutif. Le secrétaire général, parce qu'il avait la haute main sur toute l'organisation interne de l'institution, et qu'il était là tout le temps, mais aussi le président et le vice-président, parce que c'était, comme nous le verrons tout à l'heure, c'était de grands notables qui étaient très bien connectés dans tous les milieux, donc très influents, et que c'était eux qui représentaient la commission auprès du gouvernement ou, très important également, auprès des ambassades étrangères. Dans tous les cas, et conformément au statut, ce comité exécutif avait la haute main sur deux types d'instances. D'une part, premier type, la CIFRC avait mis sur pied dès sa fondation un ensemble de sous-comités spécialisés, dont la liste a quelque peu varié au fil des années. Il y en a eu une douzaine en tout. Des sous-comités où étaient invités divers experts et spécialistes qui étaient supposés réunir des informations dans leurs différents domaines de compétences, conduire des enquêtes sur le terrain et surtout soumettre des propositions aux instances dirigeantes. Et d'autre part, parallèlement à ces sous-comités spécialisés, il y avait l'administration centrale de la CIFRC qui était placée sous l'autorité du secrétaire général et qui se composait d'un certain nombre de bureaux spécialisés, puis il y en avait 8 au total, dans lesquels travaillaient les employés de la commission, qui étaient donc, eux, des salariés à plein temps, de même d'ailleurs que le secrétaire général, et qui n'étaient pas, contrairement aux membres des sous-comités, des invités distingués, travaillant gratuitement, et quand ils le voulaient bien. aussi bien dans les sous-comités spécialisés que dans l'administration centrale et dans ses bureaux, on faisait collaborer les Chinois et les étrangers, en principe de façon plus ou moins paritaire. La tendance générale au cours des années, encore qu'avec quelques exceptions, a été à une perte d'influence des sous-comités au profit des bureaux de l'administration centrale dont ils dépendaient de toute façon pour leur travail. Pourquoi cela ? Eh bien parce que d'abord les domaines de compétences étaient souvent redondants et aussi parce que dans beaucoup de cas, les sous-comités se sont révélés peu efficaces et peu utiles. Et d'abord pour cause tout simplement d'absentéisme. Leurs membres étaient des professionnels réputés, certes, mais c'était aussi des gens qui avaient beaucoup d'autres choses à faire, qui n'habitaient pas toujours à Pékin, et même quand ils y habitaient, étaient souvent absents. Si bien que la plupart des sous-comités, en fin de compte, produisaient très peu de travail. Le meilleur exemple de cette situation, il est intéressant de le signaler au passage, parce qu'il a quelques implications sur ce dont je parlerai plus tard. Le meilleur exemple de cette situation concernait l'une des activités phares de la CIFRC, puisqu'il s'agissait de l'ingénierie civile et des travaux publics. Et je m'y arrête un instant parce que les problèmes qui ont été rencontrés dans ce cas préfigurent assez bien d'autres problèmes impliquant cette fois les relations entre Chinois et étrangers, sur lesquels je m'attarderai plus longuement. L'un de ces sous-comités spécialisés mis en place dès 1922 était le comité technique, il s'appelait le Tichoubou. Donc Tichou, c'est le technique. C'était le Tichoubou. C'était le comité technique qui regroupait pas moins de 9 ingénieurs chinois et étrangers, et avec apparemment une majorité d'étrangers, puisque 5 pays en plus de la Chine étaient représentés, les États-Unis, le Japon, la Hollande, l'Italie et l'Angleterre. Et la mission de ce sous-comité technique était à la fois de concevoir des programmes de grands travaux, donc de formuler des projets, et de désigner des ingénieurs qui seraient envoyés dans les localités où la CIFRC avait décidé de conduire des travaux en urgence. En outre, le comité technique avait été chargé de sélectionner un ingénieur en chef pour la CIFRC, donc cette fois-ci un employé à plein temps et non pas un simple conseiller. En d'autres termes, il s'agissait d'un comité qui était considéré comme particulièrement important puisque, de fondation en quelque sorte, la commission accordait une priorité haute aux opérations de secours réalisées sous la forme de chantiers de travaux publics. Or, il s'est rapidement avéré que cette équipe apparemment idéale ne fonctionnait pas du tout. Loin de se constituer en un groupe cohérent, chacun des ingénieurs qui la composait se consacrait à ses projets personnels, il y avait beaucoup d'absentéisme, et le comité était incapable de répondre aux demandes d'urgence qui lui étaient soumises par la direction de la CIFRC. En fait, il ne faisait rien, ou presque. Et cela semblait d'autant plus déplorable qu'au moment de sa création, la CIFRC disposait de moyens importants pour lancer des grands travaux grâce aux fonds qui lui avaient été confiés aussi bien par la Croix-Rouge américaine que par le gouvernement de Pékin. Donc, comme rien ne se passait, le comité exécutif de la CIFRC prit l'initiative, dès la deuxième année, dès 1923, de choisir lui-même un ingénieur en chef qui n'était autre que l'Américain O.J. Todd, que j'ai mentionné la dernière fois et dont je vais encore beaucoup reparler les semaines qui viennent. Et dont j'avais déjà parlé d'ailleurs les années précédentes, assez souvent. Et O.J. Todd, donc, que j'ai souvent mentionné et dont nous verrons que c'était une forte personnalité, et de plus, contrairement aux membres apparemment du sous-comité, de plus, c'était un hyperactif. Todd, qui avait été nommé en même temps responsable du bureau d'ingénierie rattaché directement à la direction générale, et cette fois-ci, c'est ça s'appelle explicitement bureau d'ingénierie, c'était donc un Gongchengbu. Donc ça, c'est le mot qui désigne l'ingénierie. Et donc tous ces bureaux spécialisés dépendant de la direction centrale, c'était des gu, un mot qui signifie branche, membre. Donc voilà. Todd était responsable de ce nouveau bureau d'ingénierie. Et profitant de ses fonctions, il s'est empressé ces fonctions qui étaient placées beaucoup plus près de l'exécutif de la CIFRC, il s'est empressé de récupérer toutes les missions du comité technique, à un tel point que les comités provinciaux de la CIFRC, quand ils avaient des besoins dans ce domaine, ne s'adressaient plus qu'à lui pour leurs expertises ou pour leurs chantiers. D'où des frictions de plus en plus vives entre Todd et ses collègues du comité technique, force protestation de la part de ces derniers auprès du comité exécutif, des interventions diplomatiques même, puisque certains experts étrangers étaient défendus par leurs légations respectives, interventions diplomatiques d'ailleurs que les responsables de la CIFRC craignaient beaucoup, parce qu'il était important de maintenir de bonnes relations avec les ambassades, sans quoi celles-ci pourraient menacer de couper certains fonds, ce qu'elles ont d'ailleurs fait. Enfin, elles ont menacé de les couper. Mais en fin de compte, l'inaction et par conséquent l'inutilité du comité technique, du sous-comité technique, se sont révélées telles que les dirigeants de la CIFRC, qui parlaient à présent de sabotage, se sont résignés à le dissoudre au début de 1925. Et ces missions ont été confiées à l'ingénieur en chef, Todd, qui, de toute façon, les avait déjà détournées à son profit. Je cite cet épisode parce que, d'une part, il illustre la façon dont la machine administrative de la CIFRC, c'est-à-dire son secrétaire général et les bureaux qui dépendaient de lui, a progressivement repris, c'en est un exemple, disons, a progressivement repris sous son contrôle des fonctions qui avaient été dévolues à des sous-comités beaucoup plus ouverts sur l'extérieur. Et d'autre part, je cite cet épisode parce que le conflit entre Todd et ses collègues du comité technique, du sous-comité technique, n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'art qu'il avait de se faire des ennemis. Ce dont je vais avoir à reparler. Pour revenir à l'administration centrale de la CIFRC, dont dépendaient donc les sous-comités et les bureaux spécialisés, je dirais pour me résumer qu'elle incarnait le pouvoir exécutif au sein de la Commission. Elle était en permanence aux manettes et d'une certaine manière, le secrétaire général, qui pendant de longues années a en outre cumulé cette fonction avec celle de secrétaire du bureau exécutif, donc il jouait sur les deux tableaux, que le secrétaire général était le personnage clé de toute l'organisation. En tout cas, c'est lui qui exerçait la plus grande influence sur la marche quotidienne des affaires, et même au-delà du quotidien, il avait une très grande influence sur les orientations stratégiques de la Commission. Et on peut encore ajouter qu'en su du fait qu'il exerçait une autorité directe sur les bureaux, où était accomplie la réalité du travail, qu'il connaissait donc tous les dossiers, c'était aussi lui qui faisait la liaison avec les comités provinciaux par où passait une bonne partie des activités de la CIFRC sur le terrain et qui contrôlait leurs activités. Quoi qu'il en soit, et c'est lui aussi qui contrôlait leurs activités. Quoi qu'il en soit, comme nous venons de le voir, le bureau dont l'ingénieur Todd était responsable dépendait justement hiérarchiquement du secrétaire général, ce qui, quelques années plus tard, n'a pu qu'envenimer le conflit dont je reparlerai tout à l'heure. Pour en revenir maintenant au sujet proprement dit, ce qui me concerne ici est que, en tant qu'organisation internationale, ou plus exactement, encore une fois, sino-étrangère, comme l'exprime son nom chinois, la CIFRC faisait par définition collaborer des Chinois, d'une part, des Européens et des Américains, d'autre part, les uns et les autres étant, comme nous venons de le voir, en nombre à peu près égal au sein de ces instances dirigeantes. L'auteur de la meilleure étude récente sur la CIFRC note au passage, après avoir parlé de la composition du comité exécutif, il note qu'il est assez remarquable qu'en dépit de cette forte influence internationale au sein de son personnel dirigeant et dans ses principes de fonctionnement, la CIFRC, il est assez remarquable qu'elle ait réussi à se développer et à prospérer malgré le nationalisme intense qui régnait en Chine dans les années 1920 et aussi bien, pourrait-on ajouter, dans les années 30. Nationalisme qui, dans les larges milieux, était la cause d'une profonde hostilité envers les étrangers, soupçonnés de servir la cause de l'impérialisme, même lorsqu'ils manifestaient l'attitude la plus dévouée et la plus altruiste. Cela étant, si à la CIFRC la coopération au sein de la direction était harmonieuse en surface, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elle ne l'était pas toujours dans la réalité. Et cela soulève beaucoup de questions intéressantes. Le problème, en l'occurrence, est qu'il n'est pas très facile justement d'y regarder de plus près. Et là, avant de vous livrer un certain nombre d'éléments, je crois nécessaire de faire une petite digression sur le problème des sources. Tant il est vrai que si l'on ne sait pas exactement sur quoi l'on s'appuie, si l'on ne se livre pas à une évaluation critique des sources et d'un inventaire aussi large de sources que possible, le risque est grand de se lancer dans des considérations hasardeuses et de formuler des conclusions hâtives, ce que n'ont pas manqué de faire beaucoup d'auteurs sur ce sujet particulier. Déjà, lorsque j'avais évoqué il y a un an le développement de ce que j'appelle la philanthropie moderne en Chine, et plus précisément lorsque j'avais évoqué les interventions à Xi'an et au Shaanxi des organismes philanthropiques ou charitables chinois et internationaux pendant la terrible famine qui culmine en 1930, j'avais souligné qu'on se trouve confronté à un problème historiographique bien particulier. Ce problème, c'est que, avec assez peu d'exceptions, les historiens chinois et les historiens occidentaux semblent souvent ne pas parler de la même chose. Ou au minimum, ne pas en parler de la même façon, ne pas mettre en avant les mêmes arguments et ne pas mettre en évidence les mêmes détails. Disons, quitte à caricaturer un peu, qu'à la fierté nationaliste des Chinois répond la condescendance « colonialiste » entre guillemets des autres. Ainsi, pour ne vous donner qu'un seul exemple, alors que les travaux chinois récents présentent l'histoire de la Croix-Rouge chinoise, dont j'avais beaucoup parlé, comme une success story, comme l'histoire d'un succès, d'une réussite, les historiens occidentaux, quand ils voulaient bien en parler, ont longtemps préféré souligner ses insuffisances et ses échecs. Et en cela, ils ne faisaient que refléter, sans nécessairement en être conscients, l'hostilité, pour ne pas dire le mépris, des représentants de la Croix-Rouge américaine en Chine, dont les publications et les archives constituaient leur principale source. Seulement, même lorsqu'on en a le désir, il n'est pas toujours facile de recoller les morceaux, si je puis dire, et de restituer une image plus nuancée et plus réaliste en tenant compte de la façon dont les sensibilités informent ou déforment les discours. Or, il se trouve que nous disposons maintenant d'assez bons moyens pour le faire en ce qui concerne justement la CIFRC. J'ai déjà beaucoup parlé de la CIFRC ces années passées, ou plutôt je l'ai souvent mentionné, mais sans jamais entrer vraiment dans le détail. Lorsque j'ai commencé, comme je viens de le faire déjà aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, disons il y a 8 ou 9 ans, il n'y avait à vrai dire pas grand-chose, si je puis dire, sur le marché pour s'informer. On ne disposait alors que de la petite monographie d'Andrew Nathan, qui est un professeur de l'Université Columbia, qui était encore étudiant, je crois, à l'époque, qui est une histoire de la CIFRC, enfin, un petit ouvrage, publié en 1965. On disposait que de ça, et ainsi que d'une étude, il y avait aussi une étude japonaise qui avait été publiée en 1982, mais que je n'ai découvert qu'assez récemment. Et en l'occurrence, il s'agit d'une étude qui se concentre sur un programme particulier de la CIFRC, la promotion du crédit rural, qui se trouve ne pas être le programme auquel je m'intéresse plus spécialement, c'est-à-dire les travaux publics. Mais en plus de ça, j'étais aussi allé consulter la littérature officielle de la CIFRC, c'est-à-dire ses rapports annuels qui étaient publiés en anglais et en chinois et qui sont la principale source en fait de l'ouvrage de Nathan. Et cette littérature permet incontestablement d'enrichir le tableau et même assez considérablement. Et plus tard, j'ai eu la possibilité de consulter les archives personnelles de l'ingénieur Todd qui sont conservées à l'université Stanford. Et là, j'ai non seulement trouvé une montagne d'informations passionnantes et totalement inédites sur le sujet qui m'intéressait immédiatement, c'est-à-dire le projet d'irrigation du Weibei, mais encore j'ai pris conscience de ce que la CIFRC n'était pas toujours la réunion d'idéalistes passionnément dévoués au sauvetage de la Chine que suggère sa littérature officielle. Ou plutôt, j'ai réalisé que si ses dirigeants, sinon toujours les exécutants, étaient incontestablement idéalistes et dévoués, ils ne s'entendaient pas toujours entre eux. Et qu'en particulier, il y avait parfois de fortes tensions entre Chinois et étrangers, comme je vais bientôt l'illustrer. Pour l'historien, ce genre de découverte, qui est inséparable du travail en archive, ce genre de découverte sert souvent de révélateur. C'est comme si on passait dans un nouveau monde plus vrai, avec ses conflits et ses petitesses, ses ratages ou simplement ses ambiguïtés. Tout ceci venant bien sûr en contraste avec les représentations rassurantes ou à tout le moins unidimensionnelles que livrent toujours les littératures officielles, par définition. Mais ce qui est également important dans le cas présent, c'est que depuis peu sont apparues des publications chinoises d'où il ressort qu'en Chine aussi, existe des gisements d'archives et de publications jamais utilisées qui permettent incontestablement d'accéder à un niveau supérieur de compréhension et d'analyse, concernant en l'occurrence la CIFRC et les organisations similaires, mais concernant aussi, cela va sans dire, beaucoup d'autres sujets. En fait, ces travaux récents sur la CIFRC et en général sur la philanthropie sont l'exemple parfait de ce renouveau des études républicaines chez les historiens chinois dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Et plus particulièrement, elles sont un bon exemple de l'apparition d'un champ qui, pour le coup, est totalement nouveau en Chine, à savoir les études sur la société civile. Nouveau surtout, ajouterais-je, lorsque les initiatives de cette société civile, je veux dire hors des appareils d'État, des appareils de parti et hors des mouvements de masse, lorsque les initiatives de cette société civile sont présentées comme un facteur de progrès social. Et c'est ainsi qu'on dispose depuis très peu de temps d'une série d'ouvrages et d'articles en chinois sur le mouvement philanthropique à la fin des Qing et sous la République, qui sont des publications qui eussent été simplement impensables en Chine populaire il y a 10 ou 20 ans, car elles mettent en scène, et sous un jour positif, le plus souvent, des marchands, des bureaucrates, des religieux, des étrangers résidant dans les concessions, voire des missionnaires chrétiens, et même parfois des seigneurs de la guerre, autrement dit, toutes les bêtes noires de l'historiographie chinoise communiste traditionnelle. Ces travaux ne sont pas toujours d'une très grande qualité, je le dis tout de suite, ni d'une très grande subtilité, certains sont même assez décevants, je dirais presque qu'ils pêchent par l'optimisme excessif ou l'enthousiasme excessif avec lequel ils traitent leur sujet. Et puis, on tombe trop souvent sur des négligences et sur des erreurs flagrantes. En fait, le meilleur d'entre ces travaux récents chinois, et de loin, et celui-là est spécifiquement consacré à la CIFRC, est dû à un auteur de Taïwan, du nom de Huang Wende. Comme je l'ai beaucoup utilisé, je vous donne son nom, malgré tout. Bien entendu, si quiconque est intéressé par des détails bibliographiques n'a qu'à me le demander, mais je ne veux pas y passer trop de temps ici. Donc, Huang Wende, c'est un jeune, apparemment c'est sa thèse, c'est un attendez, c'est Kaiwen. oui. C'est un ouvrage qui est paru sous un titre un peu compliqué, dont je vous dispense l'écriture, mais que je vous traduis. En gros, ça signifie organisation non gouvernementale et coopération internationale en Chine, recherche sur la CIFRC. Donc cet ouvrage de Huang Wende est, dirais-je, un peu plus sophistiqué dans ses interprétations et un peu plus précis dans ses descriptions que les travaux de ses collègues de Chine continentale, dont il connaît d'ailleurs toutes les sources. Et contrairement à eux, il est allé consulter plusieurs fonds d'archives occidentaux, comme les fameux fonds du Foreign Office à Londres, qui ont été longtemps une des bases de la sinologie moderne. Mais, bon ou moins bon, il n'en reste pas moins que tous ces ouvrages récents enrichissent considérablement le tableau, ne serait-ce que par la quantité d'archives et de publications rares qu'ils citent. J'entends de publications plus ou moins inaccessibles hors de Chine, et même souvent assez difficile d'accès en Chine même. Je n'en donnerai qu'un seul exemple, mais qui me semble typique. Plusieurs de ces auteurs citent, et citent d'abondance, un périodique intitulé Chiuzai Huikan, donc collection de publications sur, sur les secours contre les victimes des calamités, donc Chiuzai Huikan, un périodique qui est paru de 1923 à 1937, au minimum 4 fois par an, et qui était apparemment, donc quelque chose de tout à fait important, et qui était apparemment le bulletin d'information officiel de la Commission. C'est ce qu'indique d'ailleurs son sous-titre en anglais. Donc, une publication de première importance. Or, non seulement je n'en avais jamais entendu parler avant de lire ses travaux, mais d'après mes sondages dans les catalogues en ligne, il n'existe qu'un seul endroit où l'on puisse mettre la main sur cette collection, et c'est la bibliothèque de Pékin, devenue aujourd'hui bibliothèque nationale. Alors que, par contraste, les rapports annuels de la CIFRC, qui, bien que fort riches en informations, comme je le disais tout à l'heure, étaient certainement moins détaillés, ces rapports annuels sont assez faciles à trouver, en tout cas dans les bibliothèques américaines. Mais ces choses étant dites, je reviens au point où j'en étais avant de m'autoriser cette digression sur les sources et sur les travaux récents, c'est-à-dire aux tensions entre Chinois et étrangers que l'on perçoit occasionnellement au sein de la CIFRC et auxquelles il arrivait d'éclater, rarement, mais ça arrivait d'éclater au grand jour. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'idée de départ était de maintenir une coopération harmonieuse entre les uns et les autres, les Chinois et les étrangers, et tout d'abord en préservant plus ou moins l'équilibre numérique au sein des instances dirigeantes. Mais de façon tout aussi importante, et sans doute plus, il s'agissait de coopter des notables chinois suffisamment occidentalisés pour qu'ils parlent à peu près le même langage que leurs partenaires. Et d'abord, au niveau simplement linguistique. Il fallait des Chinois qui parlent couramment l'anglais, puisque parmi leurs collègues étrangers, ceux qui étaient capables de fonctionner en chinois étaient l'exception. Il est probable qu'on les rencontrait surtout chez les missionnaires qui ont été assurément très actifs dans toutes les entreprises philanthropiques en Chine, y compris la CIFRC. Mais cette communauté de langage doit aussi s'entendre dans un sens plus général, ou si vous préférez, plus culturel. Les Chinois qui pouvaient figurer avec autorité dans des réunions internationales ou dans des instances de coopération sino-étrangère, comme la CIFRC, étaient nécessairement des Chinois qui avaient étudié dans les écoles des missions en Chine et plus tard dans les grandes universités étrangères, où ils avaient souvent passé de longues années, des Chinois qui étaient chrétiens, protestants la plupart du temps, appartenant à l'une ou l'autre dénomination américaine ou anglaise, ou au moins familiers d'institutions chrétiennes comme le célèbre YMCA, donc l'association des jeunes gens chrétiens. Enfin, c'est le sigle, en tout cas, est connu de tout le monde. Lequel, le YMCA, avait une très forte présence en Chine et était une pépinière d'activistes dans le mouvement philanthropique. Et d'une manière générale, il fallait des notables chinois qui savaient comment parler et se comporter dans les milieux occidentaux de Chine. Bref, des gens dont les occidentaux aimaient à penser qu'ils leur ressemblaient ou qu'ils n'avaient qu'un désir, c'était de leur ressembler le plus possible. Et de ce point de vue, force est d'admettre que les dirigeants de la CIFRC, ceux qui l'ont présidé, ceux qui ont siégé au comité exécutif et ses principaux compagnons de route aussi, que ces gens-là correspondaient idéalement au profil que je viens d'esquisser. Il serait beaucoup trop long de les énumérer tous, ou même les principaux d'entre eux, mais il suffira d'indiquer que, outre qu'ils parlaient parfaitement anglais, étaient chrétiens, avaient longtemps, pratiquement tous je crois, avaient longuement séjourné à l'étranger, tous, et étaient familiers du monde de la philanthropie en Chine, c'étaient tous des professionnels très connectés, très introduits dans les allées du pouvoir. Certains avaient eu d'ailleurs des carrières officielles ou continuaient d'avoir des carrières officielles. Il y avait parmi eux beaucoup d'universitaires de haut rang, également quelques religieux chinois, protestants bien sûr, des juristes, quelques représentants de la finance shanghaïenne et pas mal de membres du Rotary Club. Et un nombre significatif d'entre eux avaient servi dans la diplomatie, où ils servaient encore, ce qui d'ailleurs n'était pas toujours compatible avec l'accomplissement de leur fonction à la CIFRC. J'en donnerai qu'un seul exemple, qui est quelqu'un de très connu, c'était le diplomate Ian Huiting, plus connu, disons, dans la littérature sous son nom, comme beaucoup des gens dont je parlerai d'ailleurs, la façon dont on l'appelait dans les sources en anglais, c'est-à-dire par des initiales, et puis un nom qui est souvent transcrit de façon... donc, c'était en fait Ian Huiting, qui était un diplomate, qui avait été entre 1921 et 1926 plusieurs fois Premier ministre et qui avait même été de façon très éphémère président de la République en 1926. Et dont nous avions d'ailleurs vu, je l'avais mentionné l'année dernière, qu'il avait été un temps président de la Croix-Rouge chinoise à la fin des années 20. Donc Ian Huiting, ou WWN, comme on l'appelait, a été président de la CIFRC de 1931 à 1934, mais pendant la plus grande partie de cette période, il est à l'étranger comme représentant de la Chine à la Société des Nations d'abord et plus tard comme ambassadeur en URSS. Donc il fallait un intérim Et cet intérim a été assuré pendant plusieurs années, donc a été assuré par un certain Dwight Edwards, un autre personnage important dans notre histoire, qui était lui un missionnaire américain en Chine depuis 1906, je crois, qui était un vieux routier donc de la Chine et de la CIFRC, et qui, en l'occurrence, a été prêté. A prêté à la CIFRC pour être président par le YMCA de Pékin, dont il était le vice-président. Et à propos d'Edwards, d'ailleurs, dont je reparlerai, j'ai découvert tout à fait récemment que lui aussi a des archives conservées, apparemment très faciles d'accès, sauf qu'il faut aller à l'université Yale, qui certainement contiennent des tas de choses intéressantes et utiles sur l'histoire dont je parle, un peu comme les archives de Todd. Et ça m'intéresserait beaucoup, en fait, d'avoir le point de vue d'Edwards sur un certain nombre de conflits, de discussions et de problèmes auxquels il était étroitement mêlé. Les relations entre ces grands notables occidentalisés et leurs partenaires étrangers à la tête de la CIFRC auraient donc dû être sans nuages. Or, même en l'absence de conflits ouverts, comme celui dont je parlerai en fait la prochaine fois, il ne manque pas d'indices pour suggérer que les relations étaient nettement plus complexes que cela. Même s'ils étaient on ne peut plus occidentalisés, les Chinois du comité exécutif de la CIFRC ou d'autres instances similaires restaient Chinois. Et ils tenaient à le rester, et d'ailleurs, en dehors de leurs fonctions dans ces instances, ils exerçaient de multiples responsabilités dans un cadre purement chinois. Et ils n'étaient pas forcément à l'aise avec cette asymétrie dont je viens de parler, en vertu de laquelle la CIFRC, bien que sino-étrangère, était anglophone à la base, dans son fonctionnement quotidien, et fonctionnait suivant des procédures et des règlements d'inspiration, là aussi anglo-saxonne. Et ils avaient inévitablement quelques difficultés à accepter l'attitude paternaliste adoptée très naturellement par leurs collègues européens et américains, adoptée sinon nécessairement envers eux-mêmes personnellement, mais certainement envers la société chinoise, c'est-à-dire leur société. À de rares exceptions près, ces conflits et ces rancœurs sont difficiles à se représenter de façon concrète. Dans le cas de la CIFRC, par exemple, les publications officielles de la Commission, en tout cas celles que j'ai vues, ont inévitablement tendance à les passer sous silence, à donner des dirigeants de la Commission l'image d'une communauté unie autour d'idéaux partagés. Ces publications nous informent des décisions de la Commission, de ses analyses, des politiques qu'elle préconise, mais elles ne nous disent rien des débats, des désaccords, voire des rivalités en amont, de l'existence éventuelle de factions au sein de son équipe dirigeante, de factions soutenant des interprétations divergentes, défendant des intérêts qui ne coïncident pas toujours et surtout exprimant des sensibilités différentes, chinoises d'un côté et de l'autre occidentales, certains diraient même coloniales ou néocoloniales. Ces rivalités et ces méfiances, on ne peut s'en faire une idée qu'indirectement à travers des témoignages ou des souvenirs ou encore des archives qui nous révèlent quelque chose de l'envers du décor. Et il est important de les évoquer d'abord parce que c'est indispensable si l'on souhaite restituer une image plus réaliste du fonctionnement de la CIFRC et des problèmes qu'elle rencontrait. Et ensuite, c'est important de manière beaucoup plus générale parce que ces contradictions sont représentatives des relations souvent difficiles grevé d'incompréhension et de soupçons, voire de mépris de part et d'autre, entre Chinois et étrangers dans la Chine républicaine. Et cela, même quand les uns et les autres affirmaient poursuivre des objectifs et des intérêts communs, disons sortir la Chine de ses difficultés et de son arriération, lui rendre son indépendance, etc. Et en fait, même quand ils coopéraient effectivement à des entreprises communes, comme dans le cas de la CIFRC. Concernant cette dernière, donc, je me propose d'en donner une illustration très concrète en évoquant plus particulièrement deux personnages importants au sein de ces instances dirigeantes dont les relations semblent avoir été presque toujours difficiles et dont tout suggère en fait qu'ils en sont arrivés à un certain point à se détester cordialement. Ces deux personnages, nous les avons déjà rencontrés. Le premier est un Chinois que j'ai évoqué tout à l'heure mais dont je n'ai pas encore donné le nom, c'est Zhang Yuanshan. Alors lui, j'en parlerai beaucoup aussi. Zhang Yuanshan. nom d'ailleurs bien, prénom bien choisi pour un philanthrope, puisque ça signifie l'origine de la charité ou choses comme ça. Oui, qui est connu en fait dans les sources anglaises, sous son écrit comme ça, Y. Et on l'appelait, entre eux, quand ils discutaient, ils l'appelaient Y.S. Tous les Chinois de ces générations fonctionnaient comme ça. Donc, Zhang Yuanshan, qui a été secrétaire général en titre de la CIFRC à partir de 1928, en fait, il en était un des fondateurs, il en avait été un des fondateurs, avec justement Dwight Edwards, que j'ai mentionné tout à l'heure, avec qui il avait déjà collaboré pendant la famine de 1921. Donc, Zhang Yuanshan exerçait à la CIFRC depuis le début une influence considérable. C'est lui, par exemple, qui avait acquis le siège de la commission à Pékin en 1922, son siège social, et c'est lui surtout qui avait mis au point les statuts et les règles de fonctionnement de l'organisation. Et pendant près de 15 ans, on peut bien dire qu'il a été l'âme de la direction centrale, l'homme qui savait tout, qui faisait tout et qui contrôlait tout. Et le second personnage, eh bien, c'est l'ingénieur Todd, dont nous avons vu qu'il avait été engagé comme ingénieur en chef de la commission en 1923 et que ses premières années en fonction n'avaient pas été sans créer des remous. Or, des remous, il va y en avoir encore beaucoup jusqu'au départ de Todd en 1935, consécutif à la suppression de son poste. Et donc, je montrerai la prochaine fois comment l'affrontement de deux personnalités antithétiques portait aussi sur des questions de stratégie et encore plus sur des questions d'attitude de la part de Todd, surtout, en tout cas c'est là que c'est le plus clair, de Todd dont l'indéniable arrogance était assez typique de la façon dont les cadres étrangers en Chine se comportaient avec leurs interlocuteurs chinois. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.